Bonsoir. Le navire humanitaire Lifeline, avec 230 migrants à bord, objet d'un bras de fer entre Rome et La Valette, accostera finalement à Malte. Alors, si je vous en parle, c'est que cette question des migrants, au-delà du fait que leur vie est menacée, elle divise, elle fracture l'Union européenne, elle empoisonne une coalition en Allemagne déjà bien fragile, qui a déjà eu du mal à se mettre sur pied justement, et tout ça sur fond de montée de l'extrême droite. Oui, réunion très importante ce soir de la coalition CDU-CSU-SPD. Oui, Angela Merkel, fragilisée depuis les élections, est-ce qu'elle pourra mener à terme son quatrième mandat? Est-ce qu'elle va réussir à maintenir son gouvernement, sauver son gouvernement? Ou alors, est-ce le début de la fin, l'heure de la fin pour Angela Merkel, comme le dit Der Spiegel? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Pas que de blocage, une Union européenne extrêmement divisée. Puis tiens, autre source de blocage, on y reviendra aussi, c'est le projet franco-allemand de budget de la zone euro. Important conseil européen, donc en fin de semaine, jeudi, vendredi. Alors on va en parler, bien sûr, avec les meilleurs comme tous les soirs. Jean-Michel Six, chef économiste pour l'Europe de l'agence de notation S&P Global Rating. Avec nous, André Lossocroult-Pietri, investisseur, fondateur du fonds à capital, très impliqué notamment sur l'innovation de rupture, notamment eh bien avec la France et l'Allemagne. Delphine Liu, journaliste à BFM Business, qui suit les questions européennes, notamment les questions allemandes, elle connaît ça par cœur, tout comme Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine. Alors, la gestion de l'arrivée des migrants, qui secoue bien sûr le reste de l'Union, on y reviendra, et puis bien sûr l'Allemagne. Faut nous le rappeler, Delphine, ce qui se passe donc depuis quelques jours, cette crise en Allemagne. Au départ, il y a le ministre de l'Intérieur, c'est le leader donc de la CSU, c'est-à-dire les conservateurs bavarois, qui menace de refouler des demandeurs d'asile donc à la frontière de la frontière allemande dès dimanche, donc le 1er juillet, si Angela Merkel ne trouve pas une solution européenne. Alors, la chancelière, elle rejette cette solution nationale. La crise, elle est très vive depuis une semaine.
Elle est très vive, effectivement, parce que c'est la fin. On est en plein divorce alors que la CSU, donc les alliés bavarois de la CDU, sont des alliés depuis déjà des décennies.
Oui, bien sûr.
Ça vient en fait que la CSU, donc la frange bavaroise des chrétiens démocrates, a les élections régionales en ligne de mire. Elles vont avoir lieu au mois d'octobre. Aux dernières élections, elle s'est fait grignoter largement des voix par l'extrême droite de l'AFD. Et donc, elle essaye, à part un discours extrêmement ferme, de regagner des voix, en tout cas d'aller récupérer ces voix qui ont filé vers l'extrême droite, sauf que c'est un pari un peu risqué, parce qu'elle risque de faire fuir d'un autre côté des électeurs peut-être plus centristes, plus européens.
Oui, la CSU, dernier sondage, qui perd 2 points dans les intentions de vote pour cette élection régionale du 14 octobre, alors que Alternative für Deutschland, lui, gagne 3 points, justement.
Et intéressant, la CSU, les Grünen, les Verts, progressent aussi en Bavière, alors qu'eux, ils sont largement, eux, pour une politique un peu plus souple du côté de l'immigration.
Des migrants, bien sûr. La
Donc
CSU crédité de 40% des suffrages, 40%, c'est son pire résultat depuis sa création, 40%, score énorme, mais pour la Bavière, finalement, score bas. Cette crise entre vieux alliés, elle a eu raison de le rappeler, alliés historiques, bien sûr, CDU, CSU, une crise. Il y a eu déjà dans le passé, Jean-Luc Sauron, des crises comme ça entre les deux alliés, mais elle prend une nouvelle tournure nécessairement avec l'AFD, la CSU, qui se radicalise quelque part justement pour ne pas perdre la face à l'extrême droite.
Comme beaucoup de partis conservateurs en Europe, la CSU essaye de faire de la copie d'opinions extrêmes pour récupérer un électorat. Mais c'est vrai que la CSU est même contestée dans son rôle traditionnel. Puisque depuis le départ, la CSU en réalité avait comme rôle justement d'être l'allié de droite de la CDU pour empêcher toute émergence de partis à l'extrême. Or, en réalité,
partis à l'extrême qui sont arrivés pour la première fois depuis la guerre au Bundestag lors des dernières élections du mois de septembre, ce qu'il faut souligner et rappeler. Allez-y.
Ben, tout à fait. Et ce qui est avec 13%, 94 élus au Bundestag et qui font une guerre sans merci et très intelligente à Schäuble, qui est président du Bundestag, et à Madame Merkel. Non, il y a un problème de cohérence de politique. Il y a surtout un problème de calendrier. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le gouvernement Merkel a mis beaucoup de temps à se constituer. Je crois qu'ils viennent de fêter aujourd'hui ou hier les 100 jours. Les 100 jours de France, ce qui est quand même pas grand-chose. Et ce que promet Schäuble, enfin le ministre de l'Intérieur, c'est ni plus ni moins une rupture de la coalition et donc la chute du gouvernement Merkel et peut-être de nouvelles élections.
Delphine Clermont, Merkel, elle va limoger Monsieur Seehofer. La CSU, est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle peut partir? Vous le disiez, Paris.
Alors déjà, est-ce qu'elle va limoger? Ça veut dire, est-ce que Seehofer va aller jusqu'au bout de sa menace?
Refouler les migrants.
Il faut déjà attendre le sommet européen de jeudi, de vendredi, pour voir si les membres de l'Union européenne vont trouver une solution européenne à cette question. Imaginons que non. Imaginons que Seehofer aille jusqu'au bout, ce qui est encore une question à poser. Elle peut difficilement le limoger, parce que si elle le limoge, ça veut dire que l'ensemble des ministres de CSU qui sont au sein de gouvernement vont probablement partir par solidarité. C'est la fin de sa coalition. Qu'est-ce que ça veut dire? Trouver éventuellement un autre partenaire. Peut-être les Grünen, les Verts ont dit non hier. Bon, on peut changer d'avis. Ou alors de nouvelles élections. Imaginez un peu retourner aux urnes 3 mois seulement après avoir formé un gouvernement au forceps. Je pense que personne n'en a fondamentalement envie. Donc à mon avis, ça devrait plutôt se tasser.
Alors Jean-Luc Sauron et André Lossocroupe Pietri, investisseur.
Ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il y a un an, l'homme fort ou la femme forte, non seulement de l'Europe mais du monde, hein, c'était Angela Merkel, rappelez-vous, qu'elle avait été considérée comme la femme la plus puissante du monde dans la presse américaine il y a 2-3 ans. L'année dernière, lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, l'élément faible, c'était la France et on avait besoin des Allemands. Et aujourd'hui, le sommet de jeudi vendredi, c'est un peu quand même une mobilisation générale de tous les dirigeants européens pour sauver Angela Merkel, son gouvernement et la stabilité en Europe.
Bon, on verra si tout le monde veut sauver Angela Merkel, justement. André Lossocroupe-Pietri, avec ce fonds à capital que vous avez fondé, qui est à cheval aussi entre la France et l'Allemagne. Aussi.
Peut-être sur l'aspect politique, ce qui est clair, c'est qu'on assiste quand même à un logiciel allemand politique qui était bien huilé depuis 60 ans, enfin depuis la création de la République fédérale, qui est complètement cassé. Et ce qui a été souligné par Madame tout à l'heure est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte que la CSU, qui était dans le jusqu'au boutisme depuis quelques semaines, se rend compte qu'en fait elle n'est pas en train de gagner des voix. Donc moi, mon pari, mais c'est purement un pari, on verra s'il est tenu, c'est que la CSU ne va pas aller jusqu'au bout de son ultimatum. Alors c'est toujours dangereux de faire des prédictions, parce que ils commencent à se rendre compte qu'en fait les électeurs allemands n'aiment pas trop à la fois Seehofer, mais encore moins le président de la CSU, qui est Söder, qui est jeune, ambitieux, qui veut tenter le coup pour se forger une image politique nationale, alors que c'est aujourd'hui un dirigeant au niveau de la Bavière, et que en fait les électeurs lui adressent une espèce de fin de non-recevoir en disant mais en fait c'est lui qui est le fauteur de troubles. Donc il risque d'y avoir quand même un retour de bâton et Merkel va peut-être s'en sortir à nouveau.
Delphine, la CSU elle est divisée, une majorité de la CSU fait quand même confiance encore en Angela Merkel. Une grande, c'est Ben Aoud Abdelhaim qui me le murmurait dans l'oreille. Une grande part des Bavarois ne considèrent pas. Est-ce qu'ils ne considèrent pas qu'il n'y a pas des problèmes aussi importants, voire plus importants finalement, que les questions d'immigration?
Il y a eu 2/3 des électeurs de la CSU qui font encore confiance à Merkel, davantage donc que le nouveau ministre-président de la région. Et puis d'une manière générale, en Bavière, ça aussi c'est l'enseignement d'un tout récent sondage, eh bien les 3/4 des Bavarois estiment que l'immigration n'est pas le problème principal. Voilà. D'autant que de facto, l'Allemagne a refermé ses frontières largement depuis 2015, où elle avait accueilli effectivement près d'1 million de réfugiés.
Ouais. Jean-Michel Six, S&P Global Ratings.
Oui, un commentaire rapide. C'est vrai que depuis les dernières élections, on savait que le risque était que pour Madame Merkel, c'était le mandat de trop. C'est celui qu'elle aurait peut-être pas dû faire et sortir vraiment au plus haut de sa gloire et de son prestige. D'un autre côté, c'est vrai que ça fait penser à ces complots de palais qu'on a connus autour de Madame Thatcher, par exemple, qui avait été gentiment éliminée par les membres de son propre parti. Tout ça se passe évidemment dans des régimes qui ne sont pas des régimes présidentiels. On n'imagine pas ça en France. Mais en Grande-Bretagne, effectivement, on peut, comme ça, par des retournements à l'intérieur d'une majorité, se débarrasser d'une personne qui vous a énormément été utile. Ça a été le cas de Thatcher. Ça a été le cas d'Helmut Kohl, que Madame Merkel a gentiment aidé à trouver la porte de sortie. La différence, c'est que dans le cas d'Helmut Kohl, il y avait quand même une affaire de corruption qui était quand même assez grave. Dans le cas de Madame Thatcher, il y avait une usure d'une politique très dure socialement. Très, très dure socialement. Dans le cas de Madame Merkel, c'est vrai qu'elle est fragilisée par la durée même, par le temps lui-même. Mais pour autant, on ne voit pas dans l'opinion publique, comme vous le rappeliez, Delphine, ce début de rejet sur le thème, bon, c'est too much, elle reste assez populaire, c'est quand même mouti. Je veux dire, Madame Thatcher, on l'a jamais appelée maman. Dieu merci.
Queen Mum. Et, déjà pris. Queen Mum, il y avait encore la reine mère.
Et alors, il y avait en plus encore la reine mère. Donc, je pense que ça ressemble un peu à des frémissements de révolution de palais.
C'est très politicien, effectivement. C'est très politicien. Son parti lui en veut des derniers résultats aux élections. Parce qu'effectivement, que ce soit la CDU ou la CSU, ils ont enregistré des scores relativement faibles, les plus faibles depuis la fin de la guerre. On a vu l'AFD, donc l'extrême droite, arriver au Bundestag. Donc voilà, ça a généré l'arrivée aussi d'une nouvelle génération, des quadras qui trépignent pour prendre sa place, et notamment un ministre de la Santé qui... elle aimerait bien prendre sa place.
Elle va s'exprimer devant le Bundestag, c'est jeudi, après-demain, Angela Merkel. Bon, on va voir comment elle va sauver son gouvernement. Qu'est-ce qu'elle doit réussir, Angela Merkel, à Bruxelles, donc jeudi et vendredi, pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'elle doit dire aux 26 ou 27 autres? Comment est-ce qu'elle doit peser pour faire valoir ses vues? Parce qu'Angela Merkel, elle ne veut pas de solution nationale sur les migrants. Elle l'a redit donc à ses partenaires de la CSU. Jean-Luc Sauron, Delphine Liouf.
Elle veut, ça dans la confirmation de ce qui a été ébauché au mini-sommet de dimanche dernier avec France, Allemagne, les pays du Nord.
Il manquait 4 pays.
Il manquait le groupe de Visegrad. Ouais. De toute façon, vous pouvez leur donner la clé chez vous. De toute façon, ils n'en voudraient pas. Les trois États baltes qui ne sont pas, ils sont pas concernés. Je crois qu'il ne faut pas dévaloriser ce mini-sommet, parce qu'il a permis quand même d'abord d'intégrer l'Italie, qui n'est pas totalement déphasée dans le groupe. Et je crois véritablement que ce qu'elle va chercher jeudi, vendredi, c'est la confirmation, finalement, la demande qui peut être considérée comme légitime, de ce que l'Allemagne ne soit pas le terminus général de l'ensemble des flux. Parce que les Allemands ont poussé, ce qu'on dit à l'époque, c'est l'Allemagne qui a décidé de l'accord UE-Turquie, qui a décidé de l'enveloppe et qui a négocié directement. Et les Européens ont dit « accord ». Aujourd'hui,
on le rappelle, cet accord, c'était donc, je vous donne aux Turcs de l'argent, donc 6
3 milliards. Enfin, 3 milliards.
C'était 3 milliards,
pardon. 3 milliards par tranche, ce qui est déjà pas mal.
6 milliards en total, oui, c'est ça.
Ce qui est pas mal.
3 milliards, et M. Erdogan, réélu président, dimanche, les contrôlait bien et empêchait donc qu'ils reviennent, qu'ils arrivent dans l'Union.
Alors c'est vrai que l'entrée par les Balkans a été totalement asséchée, quasiment. Et bien sûr, l'immigration, c'est l'eau, ça passe vers où est l'ouverture. L'Italie. Et maintenant, il y a l'axe Afrique-Italie. Et c'est la demande un peu des Européens, dimanche dernier, c'est de réitérer avec la Libye, enfin, la Libye, c'est quand même pas un gouvernement et une administration, et d'autres pays du Sahel, la garantie de ces filtres, de ces camps de transit, où il y aurait un tri entre ceux qui seraient uniquement des migrants économiques et qui devraient rester là-bas, et ceux qui seraient en effet susceptibles d'être nazis. Ce qui aboutirait à ce que ne viendraient en Europe que ceux qui serait susceptible vraiment d'y trouver un asile.
Jean-Michel Six.
Oui, très rapidement, juste pour dire que justement dans le rappel que vous faites, qui est très important, il me semble qu'il y a quand même un problème fondamental, qui est le problème lié à ce traité de Dublin là, qui dit que finalement le traitement primaire, le premier traitement des immigrants arrivant en Europe au sens Union européenne, doit être fait par le pays qui les reçoit. Donc, par définition, la Suède est assez peu concernée.
Non. C'est ça.
Par contre, l'Italie, très concernée. Donc, les Italiens ont posé sur la table, d'une façon qui est peut-être inacceptable, etc. Mais enfin, ils ont posé le problème qui est de dire, nous, ça suffit, on peut plus gérer, on a d'autres problèmes.
On les a laissés complètement seuls.
Alors, aujourd'hui.
Et maintenant, on paye les...
Voilà, exactement. Donc, il faut quand même rappeler qu'il y a une faiblesse à l'origine dans cette construction qui est de dire à des pays qui n'en ont pas entièrement ou tout au moins sur les 28 de l'Union Européenne, pourquoi il y aurait deux pays, disons l'Espagne, trois, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, qui à elles seules Absolument. Devraient gérer une crise qui est quand même très compliquée, très difficile.
D'autant que les fameux pays de Visegrad dont on parlait à l'instant, donc la Hongrie, Pologne, République tchèque, etc., eux refusent absolument tout quota de migrants, etc.
On va revenir simplement sur cette semaine cruciale sur la scène européenne à propos des migrants. Je voudrais qu'on termine sur l'Allemagne, enfin qu'on termine cette crise politique, bien entendu. C'est quoi les alternatives, justement, si jamais Angela Merkel n'arrive pas à convaincre les Européens, si jamais la CSU refoule les migrants, le ministre de l'Intérieur, que la CSU casse la coalition, en tout cas que Merkel renvoie la CSU, on ne sait pas très bien. C'est quoi la suite? Angela Merkel, elle va faire une coalition avec les Verts, peut-être? Oui, non?
Alors, on évoque maintenant une coalition. Après, on a beaucoup parlé de la coalition jamaïcaine. On parle maintenant d'une coalition kényane.
Jamaïcaine, c'était jaune, les libéraux, noirs.
Les libéraux, les conservateurs et les Verts. Alors maintenant, on envisage éventuellement, si la CSU donc quitte la grande coalition, de conserver donc les sociaux-démocrates qui, pour l'instant, paradoxalement, soutiennent vraiment Angela Merkel. Ouais. Les conservateurs et les Verts. Sauf que hier, la chef des Verts a dit non.
Oui. L'autre,
l'autre option, c'est de nouvelles élections.
Ah ben voilà.
Mais c'est pour ça que personne n'en veut. Donc, je tiens un peu le pari que tout ça va s'arranger. Ouais. C'est le propre des surprises.
Est-ce qu'Angela Merkel?
Mais je pense que personne ne veut aller au clash. Personne ne veut aller au clash. Personne ne veut aller à de nouvelles élections. À mon avis, ça va.
Le surnom de Merkel, c'est la tortue. Donc je pense que c'est aussi, elle est en train de jouer avec le temps, et je répète que je suis un peu ce que disait André tout à l'heure sur le fait que la population n'en veut pas, c'est très très bien, mais elle n'en veut pas, mais c'est si tout arrivait de manière rationnelle. Et je trouve que, ce qui est intéressant, c'est que le foutoir aujourd'hui qui est le cas en Europe, c'est quand même ce que c'est une Europe des nations. C'est-à-dire que ceux qui nous bassinent avec l'Europe des nations, aujourd'hui c'est l'Europe des nations, c'est-à-dire c'est l'Europe du rapport de force. Je t'envoie des étrangers. Suis un petit mot, Geoffer.
Il n'y a pas d'accord global. C'est chaque nation finalement.
Ah ben c'est le rapport de force. Moi l'Italien, je laisse passer tout le monde, je vous les envoie ou je les bloque sur la mer. Moi les Allemands,
les quatre pays disent on vient même pas au sommet.
Ouais, mais c'est très compliqué parce qu'ils sont là. C'était un mini sommet qui juridiquement était quelque chose d'un peu étonnant. Enfin, c'est vrai que la Pologne et la Hongrie ont critiqué ce mini-sommet parce que c'est quand même un sommet sur mesure pour aider Madame Merkel, ce qui n'est pas prévu par les traités. Madame Merkel qui voit Orban le 5 juillet.
Premier ministre d'Hongrie.
Oui, donc c'est quelque chose de très... moi, je trouve que c'est une situation qui est complexe et qui est très instable. Moi, je suis moins optimiste. Je pense qu'on peut... début juillet 14, personne n'aurait pensé à la fin de la guerre. Et ça s'enclenche. Au bout d'un moment, on ne contrôle plus ce qui se passe.
Bon,
on
peut être là. Toujours André Lostrup.
Oui, non, moi je pense qu'il y a quand même deux leçons, notamment côté français, à retenir de ce qui se passe en Allemagne. D'une part, parce que moi ça m'a frappé quand même dans les derniers mois, de voir à quel point quand même beaucoup ne comprenaient pas que la coalition au pouvoir en Allemagne, c'est pas la quatrième fois la même. Les sociaux-démocrates ne sont pas du tout les gentils garçons qu'ils ont été dans la dernière coalition, puisqu'ils se sont rendus compte qu'en étant les bons partenaires, en fait, ils se faisaient laminer. Donc Olaf Scholz, aujourd'hui, le ministre des Finances, il en fait encore plus, il en fait des tonnes, comme on dirait, pour s'assurer que justement il n'est pas vu comme quelqu'un de faible.
Et au départ, il ne devait pas être dans cette coalition.
Non, il n'arrange pas les affaires de Merkel et donc les affaires aussi sur le budget de la zone euro. On a vu toute la difficulté. Et la deuxième chose, on se rend compte que la fameuse coalition de CDU-CSU n'est plus aussi forte et inébranlable qu'elle était. Ça, c'est peut-être une bonne leçon. C'est que prend en France, on va le comprendre. La leçon très négative, d'après moi, c'est que on se rend compte aujourd'hui que l'Allemagne peut potentiellement
n'a plus du tout ce rôle de leadership. C'est-à-dire Merkel, les quelques décisions fortes qu'elle a prises, qu'on pourrait qualifier de visionnaires, qu'on les aime ou pas, sur les migrants, eh bien, c'est encore un soubresaut de cette décision qu'elle a prise il y a 3 ans, ce qui est en train de se passer.
De manière unilatérale, c'est peut-être aussi là encore la leçon à retenir, peut-être. C'est qu'elle a pris sa décision toute seule, sans...
Oui, mais surtout, ce qu'on dit peu, c'est qu'en fait, la CSU, elle a rué dans les brancards sur la décision de la zone d'un budget pour la zone euro, même s'il n'y a aucun chiffre qui a été donné. Donc là aussi,
on va y revenir.
On ne peut pas attendre d'Angela Merkel, si elle reste, de faire des grandes avancées. C'est quand même une très très mauvaise nouvelle pour le président français.
Justement, on verra de quelle manière cette crise des migrants peut freiner les velléités d'Emmanuel Macron de changer et de réformer cette Union européenne, spécialement la zone euro. On est dans une semaine cruciale sur la scène européenne. Est-ce qu'on pourra trouver une réponse commune? Est-ce qu'on va être obligé d'en passer par des accords en traitant? On reste toujours sur la question des migrants avant d'aborder la zone euro. Jean-Luc Sauron, l'Union est dans l'impasse? J'ai l'impression que les Européens n'ont jamais été aussi divisés.
D'abord, ils n'ont jamais été aussi divisés. Deuxièmement, il faut savoir que la dernière année de la Commission, on l'a commencé mai 2018, elle se termine en mai 2019. Normalement, à ce moment-là, la Commission est en pilotage automatique. C'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout concernée. Et rappelez-vous ce que disait Juncker en arrivant, c'est la Commission la dernière chance. Moi, je pense, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, que c'était la dernière chance de la Commission, parce que son rôle s'est encore en plus délité. Non, il y a un vrai problème, c'est nous sommes dans le tunnel, si je puis dire, des élections européennes. Et là, l'année prochaine, il y a une possibilité, une probabilité, que les majorités populistes qui sont exprimées dans les différents pays, s'exprime au Parlement européen et donc bloque la machine. Parce que prenons le cas des députés français du Front National, ou des Bleus, ou de Marine Les Bleus, je ne sais plus, ils n'ont strictement rien fait d'autre pendant un an que de se faire poursuivre pour fraude des différentes choses. Et si on a un Parlement européen qui, jusqu'ici, était un Parlement où les textes étaient adoptés à 90%. C'est-à-dire que tout le monde se mettait d'accord. Aujourd'hui, ce pourcentage baisse parce que l'extrême, l'Europe nationaliste n'y veut pas. Mais si demain, cette Europe nationaliste a 40, voire 50% de représentation, il n'y a plus de Parlement européen, donc il n'y a plus de décisionnel. Et 2019, c'est le vote du budget. C'est le vote de la proposition éventuellement de président Macron sur les sanctions financières aux États qui ne suivraient pas la répartition. C'est une année cruciale où l'Europe peut vraiment connaître son épreuve de vérité, comme, enfin, malheureusement, elle a connu déjà beaucoup.
Alors, Jean-Michel Sixamo, André Le Soucroupietri, et puis on abordera cet autre sujet de tension, ce projet franco-allemand, le budget de la zone euro.
Pour être à ce que dit Jean-Michel Sixamo. Oui, pour... En fait, il y a deux facteurs qui se contrebalancent un petit peu aujourd'hui. C'est d'une part l'immigration, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous que cette Europe-là, elle est vraiment très très divisée, tristement divisée. Et puis d'un autre côté, il y a la montée du protectionnisme et les menaces de Trump. C'est plus que des menaces, c'est les actes de Trump qui, au contraire, auraient tendance à réunifier l'Europe. Parce que là, tout le monde est concerné. Aussi bien les Polonais que les Français, les Italiens et évidemment BMW. Donc bien sûr. Donc là, à l'inverse, il y a un appel à l'unité et un appel à une réponse forte dont on a commencé à voir les prémices, mais qui passe au deuxième plan malheureusement face à cette crise de l'immigration, parce que on se fait des sommets, comme vous le disiez, on se fait des sommets sur mesure pour ne parler que de l'immigration, alors que dans le même temps à Washington, il aligne l'addition, les mesures, les trucs comme ça, qui peuvent avoir des conséquences économiques gravissimes. Donc on assiste là vraiment, il y a deux facteurs totalement contradictoires qui agissent simultanément.
André Le Soucroupietri.
Peut-être encore plus direct que ça, c'est-à-dire que, en fait, ça fait quand même plusieurs années qu'on nous avait promis des conseils européens qui seraient véritablement des conseils où on prendrait les décisions stratégiques, long terme. Eh bien, ça fait probablement 20 ans que chaque conseil européen, les sujets stratégiques sont relégués derrière par les urgences du moment. Alors, il y a aujourd'hui, c'est parti en grave, mais les sujets de budget de la zone euro, les sujets de protection vont probablement occuper. Alors, dans le communiqué final, on va sûrement montrer que ça a été un sujet important, mais on va sûrement parler trois quarts du temps du sujet des migrants. Et sur le point des États-Unis, là, pardonnez-moi, aujourd'hui, on se rend compte que la Commission, alors peut-être parce que c'est le lame duck, c'est la dernière année de la Commission, mais on sent que l'incarnation politique n'existe pas. La réponse des Européens, elle a été, excusez-moi, minable. minable par rapport aux États-Unis.
Deux petites choses, Jean-Michel, et on revient juste sur le parallèle entre Trump et l'Europe. Mais le problème, c'est que le président américain a tous les pouvoirs pour les mesures liées au commerce international, et notamment les mesures protectionnistes. Obama a été le président américain qui a pris le plus de mesures protectionnistes depuis 1929. Donc Trump, il continue là-dessus. Mm-hmm. En Europe, c'est un vote à la majorité qualifiée. Donc, on ne peut pas avoir de politique tranchante, puisqu'à chaque fois, on dit, attends, moi d'accord, mais moi ça gêne mes voitures, mais là, il faut conserver mes petits points. Là, donc ça, déjà, il y a un problème de décisionnel très très fort. Deuxièmement, on parlait tout à l'heure des conseils européens. C'est toujours extrêmement intéressant. Alors j'espère ne pas horrifier nos spectateurs, mais tous les conseils européens sont en réalité préparés par la conférence des ambassadeurs, où il y a des projets de conclusion qui sont sur la table et qui tournent depuis 15 jours. Et en fait, pour ça que au Conseil européen, les conclusions sortent assez bien, parce qu'en fait, tout est calibré. Et la première fois, il ne connaît pas l'Europe, Monsieur Conte, le président du Conseil italien. Il a dit quoi? Mais qu'est-ce que, genre, j'ai vu dans la presse les conclusions, mais c'est scandaleux. Mais personne ne m'a expliqué que ça fait 50 ans que ça marche comme ça. Et donc, il a bloqué, il a freiné aussi. Donc, je veux dire,
comment est-ce qu'il arrive au pouvoir? Je referme la
porte. Ça, c'est un autre problème. C'est pas ce soir, ce sera peut-être la semaine prochaine pour l'Italie.
Bon, allez, on peut pas tout dire. À tout de suite, on se retrouvera donc dans un instant avec les décodeurs. Est-ce que c'est l'heure de la fin pour Angela Merkel? Et puis, on reviendra justement à la montée du protectionnisme. L'Allemagne déjà pénalisée apparemment. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, alors, beaucoup de divisions, évidemment, beaucoup de débats pollués. Alors, il y a la crise des migrants, bien sûr, qui, évidemment, cause un certain nombre de fractures. Et puis, autre, évidemment, camp de division, de réserve, c'est ce projet franco-allemand de réformer l'union économique et monétaire, avec donc un budget de la zone euro, donc à partir de 2021. Que disait Bruno Le Maire, donc le ministre français de l'économie? Cette proposition n'est pas négociable. Il le disait dans un entretien au FT, donc ce matin. Le président de l'Eurogroupe, Monsieur Centeno, constate des différences d'opinion persistantes sur le projet. C'est peu dire, hein, Jean-Luc Sauron, hein, c'est tout le monde flingue, que ce soit les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, la Pologne, le Danemark, la Finlande, la Lettonie, enfin bref.
Il y a deux choses à souligner. Le premier, c'est que, enfin personnellement, j'ai tiqué immédiatement sur la date de lancement du projet qui correspond à la fin du mandat d'Angela Merkel. Donc c'est vrai que ce soir, on peut se demander s'il y a encore quelqu'un au bout du téléphone. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je crois vraiment que c'est la schizophrénie européenne, quoi. Vous avez des gens qui sont dans la zone euro, qui n'arrivent pas à s'organiser, et vous avez des gens, ne disons pas de nom, les Polonais, les Danois, qui ne sont pas, enfin les Danois aussi, mais les Suédois et les Polonais qui ne sont pas dans la zone euro, et qui refusent que la zone euro avance toute seule. Donc il y a quelque chose qui ne va pas.
La Pologne a d'ailleurs averti qu'un budget de la zone euro pourrait marquer la fin de l'Union européenne. Si un budget
ils ont toujours le mot pour
l'Union européenne à 27.
Peut-être
qu'on pourrait la continuer à moins.
D'ailleurs, création qui doit être approuvée, là on n'est plus dans la majorité qualifiée, mais à l'unanimité.
Oui, bien sûr.
Ce budget de la zone euro. Jean-Michel Six, c'est quoi le bien fondé d'un tel budget de la zone euro? Est-ce que ça permettra d'accompagner les pays en difficulté?
C'est l'idée. L'idée,
ça sert à quoi?
L'idée, c'est effectivement d'aller un pas supplémentaire dans une vision un peu fédérale de l'Europe, dans laquelle on a un budget fédéral où qui sert à soutenir régions ou pays en difficulté cyclique à un moment donné. C'est exactement, si on pousse la chose jusqu'au bout, bien sûr, c'est le modèle américain, c'est-à-dire vous avez un budget fédéral, on peut intervenir quand il y a une catastrophe, un ouragan, bon, etc. On n'a pas ça aujourd'hui directement. Donc c'est ça un peu le concept. Maintenant, on voit bien que c'est symbolique, c'est-à-dire que comme le rappelait Jean-Luc, d'abord 2022, on a le temps de voir. Il y a des trains qui vont passer d'ici là. D'autre part, le processus de décision derrière ce budget, un budget, ça demande une volonté politique, ça demande, etc. Bon, on voit pas très bien qui exactement détiendra les clés du pouvoir de ce point de vue-là.
On parle d'un budget de combien aussi?
En plus, on sait pas du tout. Il est pas chiffré. Mais d'un autre côté, c'est alors, mais il faut être honnête. On peut pas en même temps ricaner sur sur ce budget vide, sans date, etc. Parce que, en même temps, faute de ça, c'est quoi la solution quand on aura la prochaine crise? Quand certains pays connaîtront à nouveau des difficultés liées, par exemple, pour donner un exemple tout à fait anodin, à une hausse des taux d'intérêt, par exemple, qui peut mettre quand même quelques pays en difficulté. Bon, à ce moment-là, on fait quoi? Qui? On va retourner à Deauville, on fait de nouveau un sommet à Deauville pour essayer de faire un package pour aider à nouveau ces pays, et on est reparti, non pas comme en 14, mais comme en 2008. Donc, il y a on essaye de poser un problème. Je pense que là, effectivement, les Français essayent de poser le problème de on n'a pas avancé structurellement depuis 2008 sur ces questions. Bon, après, c'est vrai que c'est visiblement extrêmement difficile pour toutes les raisons qui ont été citées.
Delphine, vous allez nous quitter dans une poignée de secondes. Cette crise migratoire, elle peut menacer l'élaboration, justement, de cette feuille de route franco-allemande.
Ben, on le voit, elle a clairement éclipsé toutes les propositions d'Emmanuel Macron. Elle va probablement dominer les débats et jeudi et vendredi. Alors certes, Paris et Berlin arrivent avec un projet franco-allemand, mais on a vu, on vient de le dire, qui a suscité beaucoup d'opposition, à la fois en Europe, à la fois en Allemagne, puisque donc le fameux ministre de l'Intérieur accuse Angela Merkel d'avoir fait trop de compromis à Emmanuel Macron pour que lui-même la soutienne justement sur le front de l'immigration. Enfin bon, voilà, donc ça suscite beaucoup d'opposition, à la fois intérieure, à la fois européenne. Ce qui est clair, c'est que c'est l'immigration qui va dominer les débats, et que j'ai bien peur que la réforme de la zone euro attende encore un petit peu.
Et même chose pour vous, André Lossocourt. Pietri, investisseur fondateur du fonds à capital, très impliqué sur l'innovation de rupture, l'impact sur justement ces projets que Macron et Merkel veulent porter l'un et l'autre.
Ouais, je crois que il faut quand même distinguer. Il y a des projets qui sont effectivement du ressort de l'économique, et au risque de choquer quelques-uns, moi ce qui me surprend, c'est quand même l'absence de, pas de vision politique, elle est évidemment là, mais de projets politiques compréhensibles par les citoyens. Et c'est peut-être ça par quoi il faut commencer. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la société civile en Allemagne, elle est beaucoup plus partante sur des projets concrets, comme dans le domaine économique, dans le domaine des technologies, de l'innovation. Idem en France. Mais on a l'impression qu'au niveau peut-être des bureaucraties ou des gouvernements, ben on s'acharne sur des projets qui sont certes très importants parce qu'il faut préparer la prochaine crise. Mais un, la prochaine crise sera probablement très différente de celle qu'on a connue. Donc est-ce que les mécanismes qu'on met en place vont véritablement être bons? On peut en douter. Et deuxième chose, ce qui moi me fait peur, c'est qu'aujourd'hui ceux qui sont les plus clairs, à part peut-être notre président de la République, sur leur projet politique, c'est les populistes. Les populistes aujourd'hui ont une vision claire, et ça, c'est ce qui me fait extrêmement peur.
C'est vrai, Jean-Luc Sauron, ce que vient de dire André Lossocourt-Pietri, c'est fondamental, parce que c'est vrai, la compréhension des projets européens vis-à-vis aux yeux de l'opinion. L'opinion en ce moment, on leur parle beaucoup de migrants. Ils sont inquiets, à tort ou à raison, peu importe. On va pas revenir là-dessus. Et on leur parle de quoi? De projet, d'un budget de la zone euro en 2021-2022. C'est-à-dire dans 8 siècles à peu près, aux yeux de certains, non?
Je suis d'accord avec André sur le fait qu'il y a un déficit d'explication qui est majeur, qui a jamais été bon pour l'Europe et qui s'est encore aggravé. Alors, petite excuse, je le sais, c'est plus facile d'attaquer l'Europe que de la défendre. Parce que la défendre, c'est d'écrire une complexité d'organisation et de choses, c'est beaucoup plus simple que de ricaner, etc. Le côté positif de ce budget, je suis d'accord que c'est très loin pour les concitoyens, mais c'est aussi le job des politiques d'avoir quand même une prévisibilité, d'avoir un champ. On ne peut pas continuer à être complètement comme Salvini, la tête sur le guidon, à monter des coups tous les 3 jours. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me paraît majeur à dire. Deuxièmement, je suis André sur le fait, et moi j'essaie de me battre là-dessus, il faut impérativement qu'il y ait une articulation beaucoup plus forte entre la France et l'Allemagne. Parce que nous ferions une paix de petite fédération à deux, eh bien on fait plus de la moitié de la zone euro économiquement, et nous sommes les décideurs et on emmène tout le monde. Alors qu'aujourd'hui la faiblesse de la France, c'est bien sûr qu'elle a un discours européen clair, qui est aussi en phase, d'accord avec André, il n'y a pas que les Allemands, hein. Beaucoup de populations européennes sont attachées à l'Europe, beaucoup plus que les dirigeants. Mais le problème en Europe, c'est qu'il faut payer pour voir. il faut mettre sur la table une réussite économique. Et aujourd'hui, la réussite économique française est encore en décalage par rapport aux Allemands ou aux dominants.
Oui, ben, tout à fait, mais il y a un momentum. Enfin, il faut quand même voir dans tous les pays du monde, et en Europe en particulier, l'image de la France a changé. Moi, mon message principal, c'est de dire probablement le vieux logiciel politique où effectivement, moi aussi, j'ai reçu il y a 10 jours le projet de résolution du Conseil européen de la semaine prochaine. En ce moment à Bruxelles, en mai 2018, en juin 2018, on est en train de discuter sur le budget 2021-2028. Alors certes, il faut penser long terme, mais aujourd'hui, pour tous ceux qui vivent dans le monde d'aujourd'hui, c'est totalement irréaliste. Personne ne sait. Donc là, il faut avoir le courage de changer des choses. Et un des sujets sur lesquels moi, personnellement, je m'engage énormément, c'est il faut absolument trouver une nouvelle intégration avec une société civile qui est beaucoup plus engagée, des entrepreneurs, des syndicalistes qui sont beaucoup plus engagés dans la construction européenne, et surtout ne pas laisser ces sommets donner le sentiment, parce que c'est plus qu'un sentiment, je pense que c'est une réalité, que c'est une petite élite qui se parle et qui est aujourd'hui déconnectée de la réalité et qui, accessoirement, je pense que les gens à Berlin ne comprennent plus ce qui se passe en France et je crains que, au cœur de l'État, même en France, on n'a pas vraiment compris qui sont les Allemands en 2018. Et ça, pour faire une fédération franco-allemande, comme vous le dites, c'est quand même la première des choses à faire.
Et l'Allemagne, justement, je cite Die Welt, Jean-Michel Six, le grand quotidien, qui nous disait « Le deuxième miracle économique allemand est terminé ». On a deux instituts importants, instituts économiques, qui abaissent fortement leurs prévisions de croissance. Le centre berlinois DIW, qui n'attend plus qu'1,9% de hausse de la croissance du PIB donc cette année, 1,7% l'an prochain, versus 2,4% au départ, hein, et 1,9% lors de ses pronostics. Et puis, à pire, il y a le fameux IFO, donc, de Munich, qui tape désormais sur 1,8% de croissance pour 2018, loin de 2,6% prévu au départ. La faute à qui? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne?
Alors, il y a un aspect psychologique. 2017 a été une année exceptionnelle. C'est comme les grands vins, c'est pas tous les ans.
Ouais. Comme pour la France, quoi, quelque part aussi.
Oui, voilà. Bah pour l'Europe, l'économie mondiale même, on va dire. Vraiment l'année la plus forte depuis la crise, de loin. Par rapport à ça, il est certain qu'on est aujourd'hui dans une situation un peu de déception parce que en début d'année, on avait l'impression qu'on avait vraiment un vent arrière très fort qui nous porterait sur 2018 et qu'on referait en fait de nouveau le match de la même façon. Or, non, cette année 2017 a eu un contenu de rattrapage très important qu'on ne retrouvera pas en 2018 par définition. D'autre part, il est vrai qu'il y a aussi une stabilisation du commerce international avec un infléchissement de certains pays émergents qui est assez problématique et qui risque de s'accentuer avec la situation sur le dollar et les taux d'intérêt, qui fait qu'encore une fois, les exportations allemandes, par exemple, sont en partie pénalisées, même si elles restent quand même les champions au niveau européen. Et puis, il y a un phénomène alors qui mérite plus en quelque sorte le débat, c'est la question des infrastructures et la déception permanente par rapport à ça. C'est-à-dire que je pense que M. Macron avait cette idée que avec cette nouvelle coalition et en particulier avec le SPD, on allait voir enfin un nouvel aéroport à Berlin, on allait enfin
avoir des belles autoroutes et des belles routes en Allemagne.
Les autoroutes allemandes enfin vont être traitées, etc. Et ça va profiter à tout le monde. Ben malheureusement, c'est toujours pas le cas. Et c'est vrai que quelque part, c'est assez difficile à comprendre. Parce que ils ont une situation fiscale vraiment magnifique. Ils ont un excédent budgétaire superbe. Ils ont un excédent des paiements, autrement dit de la balance extérieure, tout à fait considérable, voire colossal. Et donc, ce serait vraiment pas irraisonnable d'envisager un geste fiscal au niveau d'infrastructures qui en ont besoin. C'est-à-dire, il s'agit pas de faire des ponts qui mènent nulle part.
Non.
Il s'agit, de reconstruire
de vraies réparations.
Et là, c'est vrai que on reste dans cette déception qu'on a du mal à comprendre.
Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là, 2018, il y a ces prévisions donc à la baisse.
Ouais.
Bon, alors oui, vous nous avez dit, très bien, on va pas retrouver les bons chiffres de 2017. Est-ce que la guerre commerciale, est-ce que l'Allemagne peut être ou est déjà pénalisée par les tensions commerciales dont vous parliez?
Alors, elle l'est déjà.
On voit par exemple Daimler qui revoit ses prévisions de résultats à la baisse, BMW qui explique suivre plus attentivement que jamais la situation internationale, le Handelsblatt, le grand quotidien des affaires, qui décrète la fin de la fête pour les constructeurs automobiles. 800 000 personnes travaillent dans ce secteur en Allemagne.
Alors, pour l'instant, l'impact, il est essentiellement psychologique, ce qui est tout à fait normal. On le voit très bien dans les enquêtes d'opinion auprès des investisseurs, auprès des chefs d'entreprise en Allemagne, qui s'inquiètent légitimement, qui se disent il y a un retournement là qui risque de nous toucher. On n'en voit pas encore au niveau des chiffres proprement dit, parce que tout ça est extrêmement récent, mais on voit très clairement une opinion au niveau des milieux d'affaires, on va dire, et des milieux des dirigeants, une opinion qui est en train de tourner. Et après, encore une fois, cet optimisme que 2017 avait
apporté,
suscité,
bien sûr.
On voit maintenant à nouveau une inquiétude surgir sur le thème, effectivement, est-ce que ça va pas pénaliser vraiment, on va pas rentrer dans une espèce d'escalade commerciale tout à fait préjudiciable à nos exportations, à notre investissement, etc.
Mais c'est exagéré quand même de parler de fin du deuxième miracle économique allemand comme le...
Oui, alors il faut rappeler, oui, excusez-moi, vous avez raison là-dessus. Il faut rappeler quand même que l'Allemagne est dans une situation de plein emploi. Alors on peut contester que c'est peut-être pas la définition exacte du plein emploi, enfin quand même. Bon ils ont un taux de chômage extrêmement bas. Il y a vraiment une situation de plein emploi. Il y a pas beaucoup de pays à part peut-être la Hollande qui peuvent se prémunir, enfin se prévaloir d'une situation de comme ça. Donc un 8, un 7, un 9, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même pour la première économie de la zone euro, c'est franchement pas non plus la catastrophe, vraiment. Dans une là où on pourrait espérer...
Il faut pas enterrer plus l'Allemagne qui garde de bons atouts. Hein.
Alors, ouais. En fait, ce qu'il faut dire très très vite, c'est que avec le moteur actuel économique qu'ils ont, ils sont à plein pot, ils roulent à plein pot. Ce qu'on pourrait espérer, c'est qu'ils augmentent leur croissance potentielle, qui effectivement, là, apporterait beaucoup. Et augmenter la croissance potentielle, c'est investir plus, essentiellement. Et là, on revient d'une part à l'innovation, d'autre part aux infrastructures. Et c'est là où effectivement, il y a une déception.
Et déception, et André Lossocoupetti, l'impact de la crise politique sur la politique budgétaire du pays, elle peut se ressentir aussi.
En ce moment, elle se fait ressentir, puisque chacun des partenaires joue leur partition, et la SPD veut apparaître comme un parti de gouvernement beaucoup plus solide que l'image un peu dilettante qui était celle de parfois un peu à tort de Sigmar Gabriel dans le passé. Donc Olaf Scholz, c'est presque Schäuble au carré, et c'est très 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 ennuyeux pour la France, pour l'Europe, mais pour l'Allemagne aussi, comme l'a dit Monsieur Six.
Faut pas enterrer Angela Merkel, qu'on a souvent enterré depuis le mois de septembre 2017, les élections. Un mot chacun, un mot et on se dit au revoir, Jean-Luc.
Un élément qui n'a pas été évoqué, c'est quelle alliance pour l'Europe? Parce que Trump va bientôt rencontrer Poutine, et l'Europe n'a vraiment pas de politique et de stratégie économique mondiale.
André Socrupetti, Jean-Michel Six.
Je crois qu'on se rend compte en Allemagne comme ailleurs que la nécessité de préparer ses successeurs est clé. Et aujourd'hui, Angela Merkel, elle est aussi énormément pénalisée par le fait qu'il y a personne derrière et qu'elle n'a pas vraiment préparé sa succession, ce qui en fait aujourd'hui la fragilise.
Tout juste, Jean-Michel.
Et dès le départ, Angela Merkel était dans le collimateur de Trump. C'était les premières réunions, il a montré son hostilité d'une façon totalement inhabituelle.
En lui serrant pas la main, notamment.
Voilà, exactement. Et là, ce serait bien quand même que les Européens se demandent pourquoi. Pourquoi il lui en veut à elle en particulier? C'est peut-être parce qu'effectivement, elle porte quand même un projet européen.
Merci à tous les quatre. Jean-Michel Six qui nous accompagnait, chef économiste pour l'Europe de l'agence de notation S&P Global Ratings, encore pendant quelques heures. Merci d'être venu si souvent dans ces décodeurs de l'écho, Jean-Michel Six. André Lossocoupetti, fondateur du fonds A Capital, très impliqué notamment sur l'innovation de rupture. On était avec Delphine Liu, bien sûr, de BFM Business. Et Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris Dauphine. Voilà, faites l'Europe, pas la guerre, c'est votre slogan, c'est votre mot d'ordre. On se retrouve vite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.